histoire de pas changer. On a bu du pinard.
On n'est pas en retard.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Non mais on entend pas.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. 10e émission de cette année 2025, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Et Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et avec Agnès à la régie.
Bonsoir. Bonsoir. Agnès.
Et l'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Et pour nous suivre, on peut aller sur le blog émission-femmeslibres.blogspot.com et n'hésitez pas à y aller parce qu'on peut ainsi réécouter les émissions et avoir le programme. On peut aussi nous suivre sur Miss Cloud et Facebook. Le programme de ce soir, féminicide par compagnon ou ex. Ensuite, tribune libre, où sont les enfants? Ensuite, nous aurons comme invité Christophe Hillas-Homer, auteur de Le son de la révolte aux éditions Le Mot et le Reste. Et il évoquera spécialement pour nous les chanteuses noires américaines. Et on terminera par des informations, des communiqués, des rendez-vous. Féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix. Un homme mis en accusation pour l'assassinat de.
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes. Reconnaissons le féminicide.
Dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France, pour l'année 2025, eh bien le chiffre recensé, chiffre à minima bien sûr, le chiffre c'est 17. De nombreuses affaires sont non comptabilisées, elles sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Le 16e féminicide, dimanche 2 mars à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, une femme de 33 ans a été poignardée à mort par son compagnon, 49 ans, à son domicile, puis il a pris la fuite. C'est le frère de la victime qui a donné l'alerte. Malgré plusieurs tentatives de réanimation, cette femme n'a pas survécu à ses graves blessures. Le 17e féminicide, jeudi 13 mars à Maurepas dans les Yvelines, Rime, 42 ans, a été poignardé à mort par son mari, Ali, 61 ans, à leur domicile. L'homme a tout d'abord prétendu avoir découvert le corps de son épouse à son retour d'une sortie avec ses enfants. Il a immédiatement avancé la thèse du cambriolage qui a mal tourné. Mais les premières investigations n'ont pas permis de démontrer que quelque chose avait été volé dans l'appartement. Des contradictions dans son récit ont conduit les enquêteurs à soupçonner le mari. Nous les citons, nous ne les oublierons pas. Et on peut retrouver l'ensemble de ces informations sur www.féminicide.fr.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide.
Et la Tribune Libre, où sont les enfants ?
Lequel l'INSEE, soit l'Institut national de la statistique et des études économiques, livre ses informations concernant notamment la situation de la démographie en France pour 2024. Ce sujet est particulièrement sensible pour les leaders politiques car depuis quelques années, la natalité française, leader en Europe, diminue pour se rapprocher de celle des autres pays européens. Le dernier indice marque encore une baisse chiffrée à 1,68 enfants par femme, ce qui correspond à 663 000 naissances pour l'année 2024 et c'est en baisse par rapport à 2023 de 2%. C'est aussi 21% de moins qu'en 2010, l'année du pic de naissance. Comme le discours natalité rime avec croissance économique, chaque diminution donne des sueurs froides aux hommes qui nous gouvernent. D'autant que ce chiffre est le plus bas depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Car pour faire tourner la machine capitaliste, il faut des enfants, futurs ouvriers ou soldats. Les raisons sont connues. Les femmes font des enfants de plus en plus tard, ce qui mécaniquement réduit la taille de la famille, et on voit très très peu de familles avec 6 ou 7 enfants. Le nombre de séparations élevé, soit un ménage sur deux, signifie augmentation du nombre de familles monoparentales. Le fait d'avoir un emploi stable plus tard, un logement plus difficilement, tous ces facteurs expliquent le recul de l'âge des premières maternités. On peut ajouter le coût de l'éducation des enfants, le rythme pour concilier emploi-vie de famille, et de plus, vouloir un enfant plus tard dans la vie d'une femme n'est pas sans conséquence sur la fertilité qui a tendance à diminuer au fur et à mesure des années et que l'horloge biologique avance vers la quarantaine, tandis que le risque de fausse couche augmente. S'y ajoutent le tabagisme, le surpoids et autres problèmes de sédentarité. Les femmes privilégient leur carrière professionnelle car leur niveau d'études s'améliore. Le contexte socio-économique est guère à l'optimisme, le monde politique et écologique est très anxiogène et l'avenir des enfants y paraît très incertain. L'idée d'avoir un seul enfant n'est plus tabou. Longtemps, le mantra des familles était d'avoir plusieurs enfants pour que l'aîné ne s'ennuie pas. Et un autre paramètre joue moins maintenant, c'est que les femmes faisaient souvent un troisième enfant vers la quarantaine et de plus en plus de couples envisagent de ne pas avoir l'enfant du tout. Un nouveau paramètre est enfin invoqué. L'indicateur de fécondité varie beaucoup à cause des inégalités entre les femmes et les hommes. Cela influe sur le fait que les femmes travaillent et décident du nombre des enfants qu'elles peuvent assumer. Le constat est que les hommes ne participent pas davantage aux tâches ménagères au XXIe siècle, ce qui fait qu'elles continuent à faire la double journée, le travail et la gestion domestique. Au fil du temps, les femmes sont devenues plus diplômées que les hommes et il n'y a plus de raison qu'elles arrêtent de sacrifier leur carrière. L'époque où le salaire féminin est un revenu d'appoint est terminée. Les femmes garantissent leur indépendance et leur avenir s'il y a séparation en travaillant. Ce constat est fait par des spécialistes et c'est intéressant car il quitte le domaine de la philosophie qui veut que les femmes sont égales en droit aux hommes. On attaque un aspect concret des conséquences de cette injustice. Ce cumul des tâches est un fardeau tel que le nombre de burn-out a beaucoup augmenté chez les femmes. Mécaniquement, l'envie d'avoir plus d'enfants est revue à la baisse. On aurait pu penser que le fait que les femmes travaillent ait abouti logiquement à un partage de toutes les tâches de la maison, mais non. L'homme, s'il participe, fait des choses qu'il aime faire, comme jouer avec les enfants, les emmener à des activités sportives et maintenant à les promener en poussette. Mais quand il s'agit d'emmener le petit chez le dentiste ou aller voir les professeurs de la grande au collège, c'est pratiquement toujours la femme qui s'y colle. Elle garde la gestion complète des tâches, quitte à rappeler à son compagnon que c'est aujourd'hui qu'il faut mettre les poubelles sur le trottoir. Et cette charge mentale est très lourde et à terme, les femmes s'usent et revoient à la baisse leur désir d'enfant. Il semble que les choses ne vont pas vers une amélioration, puisque les études récentes ont montré que le fait de voir des jeunes papas justement promener leur bébé en landau n'est manifestement pas un signe de prise en charge plus équitable des tâches ménagères. Nous allons faire une petite pause musicale avec Zazie et Chaka Ponk qui chantent « Tout le monde danse ». Profitons-en.
Je sors à peine de la crise de ma quarantaine et je me traîne. Les autres sont repassés sur le même thème. Moi je suis pas la même. Si tout le monde danse en belle assemblée et que le beat cogne, même si quelques-uns pensent à se rassembler et que les flics cognent. Mais moi je danse pas. Tu dis que l'amour existe que le système. Mais je suis ken. Tout le monde s'écrase, tout le monde joue la même scène. Et ça vaut pas la peine. Même si tout le monde danse pour ne pas penser, ou ne pense qu'à tes pensées. Même quand tous ces gosses pensent à te balancer, si tu mineur en majorité.
Everybody dance. Everybody dance.
Tout le monde danse quand ces chants-là claquent tes doigts. Mais moi je danse pas. Je danse pas cette terre, je danse pas les fausses guerres. Je danse pas quand on me dit que tout est son contraire. Je danse pas quand ces chants-là claquent tes doigts. Les aiguilles de fer dans les clés de bras. Je danse pas.
Je danse pas
pour le pic qui s'agit dans le ministère Big Pharma. Je danse pas quand la vie s'enterre sous les carrières. Leur message d'amour pour la terre. Je danse pas. Les palaces qui t'effacent, qui t'effacent, qui t'encrachent là. La terre et les artères ont fait tant des lois. Voter ou pas de loi dans des orgies romaines. Paris 7e. Je danse.
danse quand ces gens-là claquent des doigts. Et moi je danse pas. Tout le monde danse quand ces gens-là claquent des doigts. Et moi je danse.
Qui joue. La planète est confrontée à des défis écologiques énormes, au fait que les pays les plus peuplés sont les plus pauvres. L'immigration climatique ou économique peut devenir un facteur positif puisqu'il comble le manque de naissances tout en assurant à des hommes et des femmes des conditions de vie qu'ils et ou elles ne peuvent plus trouver dans leur pays d'origine. D'autre part, des économistes ont constaté que le facteur taux de fécondité n'était pas corollaire obligatoire pour assurer une croissance économique made in capitalisme. La Chine en est le meilleur exemple, avec un taux de fécondité de 1,1 enfant par femme. Pour le dire autrement, un meilleur niveau de vie et d'éducation est le meilleur contraceptif qui soit et serait légitime de l'appliquer à toute la planète. Mais non, nous assistons, bouleversés, à des migrations douloureuses. Nous regardons la Méditerranée comme un cimetière géant. Les politiques européennes ont fortifié les frontières, accroissant misère et désespoir dans les pays qui ne peuvent garantir une vie décente à leurs enfants. Or, nous savons que la colonisation de ces pays continue sous d'autres formes, pratiquées par ces pays riches et blancs, qui pleurent les enfants blancs qu'ils ne peuvent avoir. Cette obsession d'encourager la natalité reste une idée dépassée et dangereuse, car elle signifie encore dans nos esprits assurer le remplacement des travailleurs dans le temps, fabriquer de la chair à canon pour les conflits de demain. Poutine ne dit d'ailleurs pas autre chose quand il enjoint les femmes russes à faire des enfants. Récemment, il a interdit toute publicité qui encouragerait les couples à ne pas faire d'enfants. Et puis il faut des enfants blancs, pas des enfants basanés. Nous ne sommes pas loin des critères raciaux du nazisme. À aucun moment, ces considérations n'apparaissent dans les augmentations des politiques comme des économistes, mais le cœur du problème est là. Sinon, pourquoi se préoccuper de demander aux Européennes de faire plus d'enfants, puisque l'immigration est une réponse évidente? L'idée du grand remplacement développé par l'extrême droite est là. On veut des enfants, mais blancs, pas des métèques. Les progrès en matière de contraception et de niveau social doivent encore et toujours permettre le libre choix des femmes d'avoir des enfants ou pas. Cependant, nous sentons bien que le vent mauvais de l'extrême droite s'amplifie de manière inquiétante. Il va falloir que les femmes soient vigilantes pour conserver, améliorer leurs droits. Le fait que des spécialistes qui n'ont rien de féministe puissent développer ces arguments donne plus de force à nos revendications d'égalité. Oui, l'égalité est un facteur de mieux-être pour les femmes comme pour les hommes. Et elles auront des enfants quand les conditions le permettront. En attendant, la situation migratoire actuelle, caractérisée par cet afflux gigantesque de personnes vers l'Europe, a été créée de toutes pièces par des politiques inhumaines, des pays riches et puissants qui pleurent le manque d'enfants. Le seul recours de tous ces peuples est de demander secours à une Europe qui a des responsabilités dans la situation géopolitique actuelle. Au lieu de vouloir relancer le taux de fécondité de la vieille Europe, accueillir les victimes d'un manichéisme cynique paraît la solution la plus humaine, mais aussi la plus adaptée au taux de fécondité d'une contrée qui s'est bien enrichie sur le dos de pays maintenant dévastés. Nous savons maintenant où sont les enfants que les femmes européennes ne veulent plus concevoir, ne peuvent plus concevoir. Ils sont à nos portes et les accueillir serait une juste réponse à leur détresse. Il s'agit donc d'une répartition logique des populations sur une planète qui offre de plus en plus de déserts, de zones inhabitables. Le critère de la blanchitude est tout simplement inacceptable, source de malheur car discriminant et impliquant que la peau blanche des bébés a plus de valeur que celle des enfants noirs. L'humanité est une et entière et doit pouvoir s'épanouir sur la totalité de notre planète. Les discours actuels attendus dans l'Assemblée nationale au sujet du droit du sol, qui ne serait plus accordé aux enfants de Mayotte, sont une illustration de ce que ces messieurs, les politiques, imaginent pour faire le monde de demain. Le petit Français noir est catégoriquement inférieur au bébé blanc né dans la métropole. Nous sommes en démocratie ? Alors au diable ces politiques idéologiques et porteuses de malheur. L'Europe doit accueillir ses populations et aider les pays d'origine à lutter contre la pauvreté ou les effets du climat. Nous savons où sont les enfants. Accueillons-les.
She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We up all night to the sun. We up all night to get some. We up all night for good fun. We up all night to get lucky. 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 The present has no living. Your gift keeps on giving. Ooh, ah, ah, ah. What you did, I'm feeling. Ooh, whoop, whoop, whoop. If you wanna leave, I'm ready. Ooh, ah, ah, ah. For good fun, I'm up all night to get lucky. We up all night to the sun. We up all night to get some. We up all night for good fun. We up all night to get lucky. 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 Like the legend of the phoenix. Ooh, whoop, whoop, whoop. All ends with beginnings. Ooh, ah, ah, ah. What keeps the planet spinning? For good fun, I'm up all night to get lucky. We up all night to the sun. We up all night to get some. We up all night for good fun. We up all night to get lucky. We up all night to get lucky. We up all night to get lucky. We up all night to get lucky.
Alors, eh bien, voilà, on est déjà dans notre troisième temps de l'émission avec Christophe Ilasomer. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Ravie que tu sois avec nous. Je sais que tu as fait d'autres émissions et deux émissions en particulier avec Trou Noir.
Tout à fait, deux épisodes, oui. Ouais. Ouais, ouais.
Voilà, donc ça veut dire quatre heures.
Oui, oui, mais parce que le sujet est tellement riche, en fait, il y a tellement de choses à raconter que mais même quatre heures n'y suffisent pas.
Et ben nous, on rajoute une cinquième heure.
Ben voilà.
Donc, c'est pour ton livre « Le son de la révolte » qui est en vente à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. « Le son de la révolte », une histoire politique de la musique noire américaine. Et là, ce soir, on va faire un focus sur les chanteuses noires.
Et les musiciennes aussi.
Et les musiciennes, oui. Alors, les musiciennes. Tu fais bien de le dire. Bon. c'est aux éditions Le Mot et le Reste, et c'est un livre qui est paru en 2024. Et puis, tu animes une émission sur Radio Libertaire, Soul Power, normalement le troisième mercredi de chaque mois, de 17h à 18h30, mais aujourd'hui...
J'ai eu quelques petits problèmes la semaine dernière, physiques, et du coup, ouais, j'ai pas eu le temps de préparer l'émission, et de... Voilà, oui, je m'en excuse.
Et donc, quand on va sur le site de Radio Libertaire, on apprend que c'est une émission consacrée aux implications sociopolitiques des musiques noires américaines, à la fois témoignage des réalités sociales et célébration de l'identité noire. La musique a toujours été un puissant instrument de combat contre les injustices structurelles. Au-delà de faire danser ou de vendre des disques, la soul, le jazz ou le hip-hop exprime avant tout l'aspiration à un changement social. Et c'est ça, ton livre, voilà, il est traversé par, par ce puissant vecteur qu'est la musique, hein, pour aller vers l'émancipation des Noirs.
Tout à fait, il accompagne, en fait, oui, c'est la bande-son de la lutte des Noirs pour leurs droits, en fait. Et ce, depuis l'arrivée des premiers déportés au XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, la musique vraiment joue une place très importante dans ce combat, en fait.
Ouais.
Et elle raconte ce combat, souvent. Alors, non pas que tous les artistes racontent dans leurs chansons, mot pour mot, « je me suis battu aujourd'hui contre le système », etc. C'est pas forcément que des paroles, mais c'est tout un tas de moyens pour, oui, encore une fois, renverser ce système, puisque contrairement, enfin... J'espère qu'il y a plus grand monde qui croit à ce mythe, mais la société américaine, dès le début, les États-Unis, après la révolution américaine, en fait, sont fondées, c'est une société inégalitaire, en fait, c'est son fondement même. Mmh. Et une société raciste, une société sexiste, et en fait, c'est vraiment le fondement de...
Et une société capitaliste.
Tout à fait.
Et impérialiste.
Ouais.
Allez, vous en avez d'autres.
Voilà, et c'est bien tout ça en lien, le capitalisme, le racisme, le sexisme, qui fait que il nous faut une main d'œuvre qu'on est allé chercher en Afrique, pas cher, hein.
Et corvéable à merci.
Voilà. Et puis les femmes, bon, on les engrosse pour qu'elles fassent des mômes qui iront travailler pour le coton, le café ou je sais pas quoi.
Exactement. Ainsi. Puis le coton, surtout à la fin, c'est essentiellement le coton, puisqu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, en fait, on invente une machine, c'est le début de la révolution industrielle, les graineuses à coton, qui va faire que du coup, on va gagner énormément de temps pour égrainer le coton grâce à cette machine. Et donc, il y a une demande de coton en Europe énorme. Et du coup, c'est vraiment... C'est un système capitaliste. Voilà, faire du profit le plus vite possible. Mmh. Et donc, vraiment, à partir du 19e siècle, la déportation des Africains s'accélère. On croit toujours qu'il y a une espèce d'effet dégressif entre le début de la traite et jusqu'à la guerre de sécession. Mais c'est totalement faux. Au contraire, c'est à partir du 19e siècle, je vais y arriver, ça se durcit. Le système se durcit à tous les niveaux. Au niveau de la violence, bien sûr, parce qu'il y a des révoltes et qu'il faut les mater. Et en plus, il y a eu la révolution d'Haïti qui a donné de l'espoir aux esclaves africains. Mmh. Et donc, c'est quelque chose qui a terrorisé les planteurs blancs du Sud et qu'il ne fallait surtout pas, justement, que Haïti puisse servir d'exemple aux hommes et aux femmes qui étaient enchaînés dans les États du Sud cotonniers.
Ouais. Alors, là, on est déjà rentré dans le vif du sujet, mais tu t'es pas présenté, et donc ça serait quand même intéressant que, au-delà de l'émission que tu fais, Soul Power, le troisième mercredi de chaque mois, je lis dans la quatrième de couverture que tu es titulaire d'une maîtrise d'histoire médiévale. Et je me dis, l'histoire médiévale jusqu'à ce livre sur l'histoire politique de la musique noire américaine, voilà, explique-moi là.
Alors, le Moyen-Âge, très tôt, ça a été effectivement quelque chose qui m'a passionné, qui m'a intéressé, parce qu'on est dans un autre monde, en fait. Très vite, en travaillant sur le Moyen-Âge, on voit que les hommes et les femmes de ce qui est aujourd'hui la France à l'époque n'ont pas du tout les mêmes envies, les mêmes craintes, les mêmes bonheurs, les mêmes aspirations. Et on est dans un monde, on est presque extraterrestre, en fait. Et puis, ce qui m'intéressait dans le Moyen-Âge, c'est que c'était une période qui a trop longtemps a été dénigré comme soi-disant barbare, etc.
Oui.
Comme si le XXe siècle n'était pas barbare, puis le XXIe siècle s'annonce bien aussi.
La Renaissance aussi, c'était pas mal non plus.
Avec les sorcières qu'on brûlait.
Et du coup, moi, je me suis intéressé je pense que du fait de mes origines, mon père est espagnol et quand j'étais petit, on allait en Espagne tous les étés. Et en fait, la culture médiévale espagnole est très intéressante, justement, ce mélange entre les trois religions du livre, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et, donc, toute cette période médiévale où il y a vraiment il y a des guerres, bien sûr, mais il y a surtout un mélange culturel très, très, très fort. Et donc, très petit, ça m'a intéressé. Enfin, je veux dire, j'ai visité l'Alhambra, j'ai visité la mosquée de Cordoue, la cathédrale de Burgos, enfin voilà. Et la Méditerranée est une culture, la culture méditerranéenne qui m'a toujours passionné, du coup, le fait de mes origines aussi. Et donc, je me suis intéressé aux croisades, en fait. Et sur, justement, comment mes recherches m'ont mené vers comment l'Occident déjà fantasmait l'Orient. Pas seulement l'Orient musulman, mais aussi l'Orient byzantin, donc chrétien, l'Orient juif. Il y avait une fascination, et même au-delà, l'Orient chinois, indien, même si tout ça était encore un peu flou pour les Européens. Et donc ces rapports, surtout après, très vite, mes recherches sont menées entre rapports entre islam et christianisme au Moyen-Âge. Et déjà, tous les fantasmes des Occidentaux autour de l'islam, et voilà. Et puis, à côté de ça, donc, je suis mon métier principal, ce qui nourrit mes enfants, c'est DJ, du coup. Et la musique que je mixe essentiellement, c'est la musique noire américaine, la soul, le funk, le disco, voilà. Donc vraiment, même si j'ai aussi un peu de jazz, du hip-hop aussi, bien sûr. Et c'est une musique qui m'a... J'écoute beaucoup d'autres musiques, mais cette musique-là... un morceau comme What's Going On de Marvin Gaye, ça me fait des trucs physiques. Et puis je me rends bien compte que c'est pas seulement un beau morceau qui a été magnifiquement interprété, composé, etc. Mais ça raconte une histoire très importante. Et une histoire qui est à la fois l'histoire du peuple noir, mais en fait qui est une histoire humaine, justement, qui raconte les injustices. Et donc très vite, j'ai découvert que la plupart des artistes, Curtis Mayfield, enfin je peux en citer plein, Nina Simone, etc. comme ça, c'est pas seulement, encore une fois, des grands artistes comme dans l'histoire de l'art européenne, ah c'est un grand artiste, ah c'est un grand compositeur, mais non, parce qu'ils ont une implication sociale très forte. Et du coup, cette musique m'ayant apporté énormément, mon parcours d'historien, j'ai mélangé les deux, en fait. Et j'ai voulu raconter cette histoire. C'est pas un hasard si cette musique a influencé, si les musiques nord-américaines ont influencé toutes les musiques du monde au XXe siècle. Mmh. C'est qu'il y avait aussi un message humain très, très fort derrière tout ça, en fait.
Bon, et ben voilà, t'as bien répondu à comment t'as réussi à mêler le Moyen-Âge avec... l'esclavage.
L'histoire des États-Unis, l'histoire voilà. De l'Amérique noire.
Moi, je pensais que la musique religieuse, le gospel, avait une très forte place, justement, dans la musique noire.
Tout à fait, tout à fait. Le gospel, c'est... En fait... les spirituels, qui, on va dire, c'est la racine des musiques noires américaines. Mm-hmm. Donc, les spirituels qui sont énormément influencés par les cultures ouest-africaines. Et on retrouve notamment la fameuse note bleue, qui, contrairement à ce que racontait au 19e siècle, à l'époque colonialiste, c'est pas parce que les noirs n'avaient pas la même, les africains n'avaient pas la même gamme que celle des européens et qu'ils n'arrivaient pas à entendre les notes européennes et que du coup ils cherchaient à les entendre et qu'ils auraient fait la note bleue. Non, la note bleue, elle existe déjà dans les cultures ouest-africaines. On retrouve ça dans le spirituel, l'importance des rythmes, parce que dans les sociétés ouest-africaines, la polyrythmie est très très importante, la danse comme lien social, comme pour régler des conflits sociaux à travers la danse, etc. La note bleue, enfin les influences africaines, et en fait, les spirituels sont... bien sûr, des chants religieux dans l'église, mais en fait, ils les chantent aussi dans les chants, en fait. Ils changent les paroles, en fait.
Paroles.
Voilà. Il y a une improvisation. Déjà, on trouve l'improvisation, c'est-à-dire que chacun adapte le morceau à sa personne. C'est pas l'inverse. C'est pas comme dans la société académique occidentale où il faut jouer à la note juste. Il faut pas faire. Non, non, là, c'est une blanche, c'est pas. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée que c'est la musique qui s'adapte aux interprètes et pas l'inverse. Et je dis ça parce que l'autre jour, mon fils rentrait de la fac, je rentre pas dans les détails, c'est sur ma vie familiale. Et en fait, il y avait un intervenant à la fac, c'était un spécialiste congolais de la rumba congolaise. Et il expliquait justement aux élèves c'est la fac de Saint-Denis, Paris 8, il leur expliquait que dans la rumba congolaise, les musiciens accordent leurs instruments en fonction de la tessiture du chanteur.
Ah ouais.
Donc voilà, c'est encore une fois. Donc cette idée de prendre des chants religieux blancs et de les exploser complètement en chants protestants, donc les hymnes protestants, en y apportant la touche africaine, c'est à la fois un moyen de... de garder justement ce, parce qu'il faut savoir qu'on essayait de, d'effacer complètement le passé de ces hommes et ces femmes, on les séparait familialement, mais aussi entre peuples, comme ça ils parlaient pas la même langue, etc.
Et puis changeaient de les patrons décidaient de quel nom ils auraient, leur identité propre
était niée,
était complètement niée.
Tout à fait. Donc la musique a été un moyen justement de se resserrer, de garder et en même temps, comme je le disais, c'est vraiment chacun s'adapte. Et donc le spirituel, c'est aussi une work song, comme on dit, une chanson de travail.
Ah oui.
Les premiers anthropologues blancs qui, au 19e siècle, ont cherché à s'intéresser au chant des Noirs américains, se sont rendus compte que parfois, ils reconnaissaient le même air, mais c'était plus les mêmes paroles, et c'était dans le chant, c'était plus à l'église, alors qu'ils croyaient que c'était un chant religieux, parce qu'il fallait caser les choses comme ça, mais en fait, non, ça peut être utilisé de façon complètement différente. Donc il y a vraiment, le spirituel est à la base, et à partir de l'émancipation, il y a les deux branches qui s'ouvrent, c'est le gospel et le blues. Mais les deux viennent du spirituel, en fait. Il y a la version profane, le blues, et il y a la version religieuse, le gospel. Mais alors attention, parce que là, la façon dont les Noirs américains vont se convertir au protestantisme, ils vont adapter, on parle d'afro-christianisme, parce qu'ils vont adapter la religion chrétienne à leurs propres conditions, à leurs propres besoins. Comme ils ont adapté les chants, les hymnes, à leurs propres conditions, à leurs propres besoins. Et du coup, dans l'évangile, un homme comme Martin Luther King, je vais prendre un exemple, on focalise à raison sur Gandhi comme son influence, mais ces deux influences primordiales, et on parle d'évangile social, c'est ce qu'il disait, c'était Jésus et Marx. C'était un spécialiste Marx, Martin Luther King. À un moment de ses études, il a énormément lu Marx, il s'est intéressé à Marx et au marxisme, etc. Voilà.
Et on peut marier ça avec Jésus ?
Ben, apparemment, oui.
Alors, Agnès nous fait la technique aujourd'hui. Hein, et je crois qu'elle veut nous dire qu'il faudrait faire une petite pause.
Pourquoi pas, mais surtout ne pas taper sur la table.
Ah d'accord, on n'avait pas tout compris.
Oui, j'essayais de le faire discrètement, mais c'est raté.
Voilà.
Mais oui, c'est mieux quand c'est dit comme ça, au moins.
Bon, est-ce qu'on ne va pas faire la pause tout de suite ? Parce que là, on était parti sur... le spirituel qui donne deux lignées, le blues et puis le gospel. On peut aussi penser que les églises, en termes de maison, c'était aussi un lieu où se retrouver pour pouvoir chanter et puis se retrouver aussi.
Tout à fait, d'autant que les blancs, comme les Noirs vont se convertir à deux courants religieux particuliers, c'est les baptistes et les méthodistes, c'est les protestants, parce que c'était des courants minoritaires, mais qui étaient pour beaucoup de leurs coreligionnaires blancs, en fait, étaient contre l'esclavage. Donc c'est une logique qui se tourne vers ces deux branches du protestantisme. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Et effectivement, cette conversion, parce que c'est au début du 19e siècle vraiment qu'il y a une conversion massive des Noirs américains au christianisme, beaucoup de Blancs voient ça comme une soumission à leur religion, etc. Voilà.
C'est ce que je pensais. Moi.
Voilà.
Ouais.
Et en fait, il leur donne une certaine liberté.
Voilà.
C'est un des rares endroits, l'église, effectivement, le bâtiment, où on les espionne pas.
Oui.
Et donc, en fait, ça va devenir des lieux de rendez-vous, à la fois politiques, à la fois des écoles aussi. On va apprendre, c'est là qu'on va apprendre les uns aux autres à lire. Quand il y en a un qui savait lire, il pouvait apprendre aux autres en douce à lire et écrire. Donc vraiment, c'est des lieux très importants de sociabilité à tous les niveaux, autant politique que religieux, que social, tout simplement. Voilà.
Et puis aussi, c'est se retrouver à nombreux. Ils avaient de toute façon pas des maisons pour pouvoir s'y retrouver.
Oui, donc, après, ils pouvaient se retrouver quand arrivait... C'est la fin de journée de travail. Alors, les journées étaient très, très dures. Mais il y avait des moments... C'est assez surréaliste quand on voit le système. Mais il y avait, par exemple, à Noël, c'était les vacances pour les esclaves. Donc, ils ne travaillaient plus. Et même, parfois, des maîtres les invitaient chez eux en croyant que c'était leur famille. Enfin, en s'imaginant... on voit l'absurdité de ce système. Ils ne sont même pas capables de se rendre compte que c'est l'horreur totale. Mais effectivement, l'église, c'est le lieu de sociabilité par excellence.
Et donc, là, tu évoques dans ton livre, avec cet héritage africain, tu évoques la musique comme rempart contre l'aliénation.
Oui.
Hein, et ça, on le ressent, mais dans tout le livre. Hein, mais ça a démarré là-dessus. Hein.
Tout à fait.
C'était pour se sortir, pour trouver une respiration en dehors de l'aliénation.
Voilà, et de s'affirmer et d'affirmer sa culture. Ouais. D'autant qu'encore une fois, les sociétés dont ont été déportés les esclaves, ce sont des sociétés où la musique, encore une fois, joue un rôle très important. Mmh. Et par exemple, dans la société sénégambienne, le griot, c'est un personnage, c'est un musicien, mais c'est aussi l'historien de la communauté. C'est celui qui, on est dans des sociétés orales, l'oralité donc joue un rôle très important, et lui, c'est la mémoire en fait des communautés. Chaque village a son griot, et ça peut être une femme ou un homme.
Ah, c'est vrai, une
griotte. Oui, une griotte. Je ne sais pas si on dit griotte, mais oui,
c'est ça peut être. C'est vrai.
C'est,
je ne savais pas.
Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment, et donc cette idée de la musique comme à la fois témoignage, c'est ce que je disais, et célébration, c'est dès le début effectivement.
Ouais. Alors du coup, dans cette période là. Où sont les femmes ?
Alors les femmes, elles sont en bas de la société américaine. Les femmes noires sont en bas de la société américaine, puisque elles souffrent à la fois. Bah, elles sont pour les esclavagistes, un homme ou une femme noire, c'est un outil. Donc il n'y a pas de séparation de genre. Vraiment, c'est la femme doit travailler autant que l'homme au champ. Il n'y a pas de voilà, c'est comme ça. Et en plus, la femme noire, quand elle rentre des champs, c'est elle qui prépare le repas. Pour son homme, si elle a eu le droit d'en avoir un, si elle a eu le droit d'en choisir un, ça peut arriver, mais voilà. Ou si en tout cas, c'est elle qui gère, encore une fois, la maison, et en même temps, elle travaille au champ. Et en fait, c'est ça qui va faire que très tôt, les femmes noires vont se rendre compte de l'horreur de ce système enfin capitalistique et sexiste, parce que elles, en fait on les considère comme des hommes, donc elles vont très vite se rendre compte que la soi-disant supériorité physique des hommes et des femmes, c'est encore une fois un mythe viriliste sexiste, et que donc quand même elles doivent travailler autant que les hommes, et qu'en même temps elles sont exploitées en tant que femmes au moment de la fin des travaux. Donc ce qui explique que très très tôt les femmes noires vont jouer un rôle primordial dans la dénonciation à la fois de l'esclavage, mais aussi très vite du système capitalistique.
Et du coup, au niveau musical, elles sont leaders de quelque chose ou pas ?
Non, alors au niveau musical, elles sont à l'égal des hommes à ce moment-là. Elles sont à l'égal des hommes.
C'est après, dans le blues, qu'on verra.
Voilà, le blues, oui, tout à fait. Ouais,
D'accord. Parce que ça, on sent bien dans le livre que la place des femmes progresse, mais je voulais en être sûre. Donc, après, on arrive au blues et au gospel, et là, il y a vraiment la place des femmes. Tu dis dans un moment, dans une note de bas de page, que 75% des chansons sur disque sont chantées par des femmes.
Dans les années 20, oui.
En 1926.
Voilà, hein, voilà, c'est au cœur des années 20. En fait, c'est ce qu'on appelle le blues classique.
Ouais.
Parce que le blues originel, il est essentiellement chanté par des hommes. Il peut être chanté par des femmes, mais il est essentiellement chanté par des hommes. Mais en fait, le blues, à la base, n'a pas de velléité à être sur disque. D'abord parce que l'industrie du disque se développe doucement, qu'elle est fermée au noir, et que le blues, c'est un moyen d'exprimer à la fois son ressenti personnel, mais en l'ouvrant sur la communauté. C'est-à-dire que c'est pas seulement je me plains tout seul dans mon coin, c'est que ce que je raconte, mon auditeur sait de quoi je parle, parce que lui aussi vit ça. Donc ça, c'est vraiment ça. Au début du XXe siècle, le blues, et Angela Davis qui a fait un très très beau livre là-dessus, vraiment c'est raconte à une époque où les États-Unis nient l'existence des Noirs, ils ne veulent plus en entendre parler, soi-disant ils sont libres et tout ça est fini, il n'y a plus d'esclavage, alors qu'en fait c'est l'horreur totale dans le Sud. Le blues va raconter justement la vie, le blues de fin 19e, début 20e siècle, années 1900 et début 1910, vraiment raconte les conditions, ce qu'on appelle les métayers, donc des anciens esclaves qui se retrouvent métayers dans les anciens champs qui travaillent encore à travailler pour leur maître ou pour les enfants de leur maître, exploités comme pas possible, avec en plus une violence systémique autour, enfin les lynchages et j'en passe, des horreurs. Donc vraiment le blues c'était ça. Et puis, à mesure que l'industrie du disque commence à se développer, et puis que le jazz commence à prendre son envol, il y a une volonté des maisons de disques de chercher à conquérir le marché africain-américain. Du coup, se dire qu'il y a un potentiel, avec parce que la musique est très importante. Ici, si on enregistre ces musiques-là, on peut faire de l'argent, en fait. On peut faire des bénéfices, et on va s'adresser à ce marché. Et en fait, c'est comme la première chanteuse de blues à être enregistrée, la première interprète à être enregistrée est une femme,
les maisons de disques bêtes et méchantes vont se dire, bah, en fait, les Noirs, ils veulent que des femmes qui chantent. Donc c'est pour ça qu'elles vont privilégier la voix des femmes noires dans le blues classique. Alors le blues classique, il est mélangé de jazz, de ragtime, on parle encore de ragtime, c'est vraiment, voilà, c'est beaucoup plus orchestré, il y a des moyens techniques beaucoup plus développés parce que c'est enregistré dans le Nord, à Chicago essentiellement, alors que les premiers blues étaient enregistrés dans le Sud, dans une grange, on arrivait avec le matériel et c'était généralement une personne seule qui jouait la guitare ou peut-être qu'il y avait quelqu'un qui faisait des percussions derrière, mais vraiment c'était minimaliste. Là on est vraiment avec des orchestres derrière, c'est plus... on est passé à autre chose, mais ce sont effectivement essentiellement les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces chanteuses de blues sont issues du prolétariat noir et qu'elles vont, du fait de la, grâce à l'absurdité des maisons de disques qui se disent on va enregistrer que des femmes noires, bah, la parole des femmes noires va prendre son envol en fait. Et vraiment, on est dans on peut déjà parler d'afroféminisme en fait, parce qu'elle parle à la fois des conditions des femmes au sens large, mais aussi des conditions particulières des femmes noires prolétaires. Et il y a notamment un morceau fabuleux de Bessie Smith, l'impératrice du blues, Washwoman Blues, justement, qui parle...
Qu'on va écouter, voilà. Qu'on va écouter, parce que c'est vrai qu'elle raconte qu'elle... Elle fait de la lessive toute la journée, qu'elle est éreintée et tout ça, mais qu'elle lave le linge sale des blancs.
Oui,
hein,
voilà.
C'est ça.
Des blancs riches, voilà, chez qui. Parce que énormément de femmes noires à cette époque qui vont quitter le Sud parce que c'est invivable pour aller vers le Nord se retrouvent domestiques, avec tout ce que ça induit aussi, puisque ce sont des femmes noires. L'homme de la maison ou les hommes de la maison ont bien sûr un droit de cuissage. Enfin, je dis bien sûr, vous m'avez compris. Hein, le viol systémique est là derrière aussi. Les chanteuses de blues en parlent justement de ça. Alors c'est un peu un mot couvert, comme souvent dans le blues, parce qu'il faut bien se dire qu'un homme ou une femme noire n'a pas, s'il ouvre trop grand sa bouche pour dénoncer le système, on est dans une société ultra-violente et ça finit très mal. Donc il fallait toujours user de double langage, etc.
On écoute Bessie Smith.
I thought I'd take a nap because I felt blue. When I went to sleep, oh, what a change. My daddy called me some fruity name. When I woke up, I was surprised to see a lot of people waiting outside. Some had bottles white the skin. Some had bottles couldn't get in. I hate the washwoman blues. I sure hate to miss money because I love my honey. $10 bundle is show some dough. I sure can make it anywhere I go. I'm not strong in neither arm. That something does the work, it don't take long. Out on the porch, watching close folks all day long. Along come a good man with bottles in his hand. I didn't know his name, had never seen his face. Oh, Mr. Man, you fill my heart with grace. Mr. I watch you every Monday in the same old place. my heart with grace. So I watch here every Monday in the same old place. Come on and see me, and I was a bum.
Voilà, on vient d'écouter Bessie Smith, Washwoman Blues, donc cette femme, toute la journée je bosse comme une esclave, toute la journée je fais des lessives, Dieu que mes mains sont fatiguées à laver tout ce linge sale. Voilà.
C'est ça, c'est ça. Ouais. Et elle raconte l'histoire de milliers de femmes noires à la même époque, dont c'est le quotidien en fait.
Ouais, ouais, ouais. On n'avait pas la machine à laver et que le linge, mais de toute façon dans tous les pays du monde, le linge a toujours été difficile à laver. Quoi.
Oui, oui.
Quand il fallait laver des draps ou des pantalons, enfin ça a toujours été difficile. Alors le troisième chapitre, il est consacré au jazz. Mmh. Et tu démarres avec donc un sous-chapitre, on va dire, la musique noire américaine à la conquête du monde. Là, c'est la guerre de 14.
Oui.
Et les Noirs n'ont pas le droit d'aller à la guerre, mmh. Selon les lois de Jim Crow.
Voilà. Hein,
pas le droit. Mais quand même, ça serait quand même bien qu'ils y aillent. Hein.
Oui, c'est ça.
Hein
ben, en fait, parce voilà. Que déjà, il y a... Parce qu'en fait, contrairement, encore une fois, à ce que raconte le mythe, les Américains n'avaient pas du tout, monsieur américain, tout le monde qui soit surtout blanc, n'avait pas du tout envie d'aller en Europe, se battre en Europe contre l'Allemagne, pour la France et l'Angleterre. Ils n'y voyaient aucune...
Non, on peut comprendre.
Voilà. Donc, le président Wilson, du coup, se rend bien compte que ici, ça va râler chez les blancs, les petits blancs, comme on dit, donc les blancs pauvres, s'il faut les envoyer, qu'on n'envoie pas les noirs. Et en même temps, il y a une partie de la population noire qui veut y aller parce qu'en fait la propagande américaine c'est de dire qu'on se bat contre le despotisme du Kaiser etc. pour la démocratie, enfin le grand classique des États-Unis. Et donc il y a beaucoup de noirs qui disent si on va se battre pour la démocratie, ça va permettre de faire avancer la lutte et peut-être qu'on va enfin avoir nos droits qu'on nous promet depuis la fin de la guerre de sécession.
Mm-hmm.
Et il y a un compositeur, un chef d'orchestre, mm-hmm. musicien, mm-hmm. qui s'appelle John Reese Europe, un New-Yorkais qui est à la tête d'un big band, qui va s'engager, enfin qui va faire partie de ces rares noirs qui vont pouvoir être s'engager dans l'effort de guerre américain. Il part avec beaucoup de musiciens de son orchestre et la première chose, ils arrivent début janvier dans mon souvenir 1918, donc c'est la fin de la guerre, les États-Unis sont rentrés en guerre fin 1917 dans mon souvenir,
oui,
aussi.
C'est ça, ouais.
Et donc ils arrivent à Brest et la première chose qu'ils font en débarquant, c'est de jouer la Marseillaise mais en jazz. Voilà. Et en fait, c'est pareil parce que pour beaucoup de Français, aujourd'hui, la Marseillaise, elle est associée plutôt à l'extrême droite, ce qui est fort dommage, puisque c'est quand même un chant révolutionnaire. Il faut quand même se rappeler qu'au 19e siècle, on risquait la prison si on chantait cette chanson dans la rue. Hein. les mêmes clans politiques qui, aujourd'hui, la défendent, alors qu'à l'époque, elle était...
Et nous imposent de la chanter.
Voilà.
Et qu'on est des très, très mauvais si on ne la chante pas.
Voilà. Hein. Et bien là, donc, du coup, c'était vraiment l'aspect révolutionnaire. C'était vraiment, dans l'imaginaire des Noirs américains, ça rappelait la Révolution française. Ça ne rappelait... Voilà. Donc, vraiment, c'était un moyen de s'imposer, de montrer leur présence. Et ce qui est assez sur Alice, c'est qu'en fait, tous les Noirs américains qui se sont engagés dans l'armée américaine ne seront pas gérés par l'état-major américain qui ne veut pas s'en occuper. Et en fait, c'est l'état-major français qui va incorporer les Noirs américains dans leur division. Les Français... On est en pleine période coloniale, hein,
oui, c'est ça,
voilà.
Bon, ouais.
Mais sauf que pour beaucoup de Français, le Noir américain, avant d'être noir, il est américain.
Mm-hmm.
Voilà. Donc il y a une fascination. C'est-à-dire que là, on voit aussi la schizophrénie. Quand ça vient du Sénégal, du Mali, c'est un noir, mais quand ça vient des États-Unis, c'est un américain.
Mm-hmm.
Et donc ils vont très vite se passionner parce que du coup, grâce à Europe qui va participer à l'effort de guerre, mais qui va être blessé, qui du coup va se retrouver à l'hôpital, va commencer à composer des morceaux en rapport avec la guerre et il va être invité un peu partout, à Nantes, à Paris, à jouer ses compositions et la France et du coup les Anglais qui sont là aussi. Enfin, voilà, très vite, ils vont se passionner pour cette musique en fait, qui est neuve pour eux, donc qui est vraiment quelque chose, voilà, les premières orchestres de jazz. Et du coup, beaucoup de morceaux que jouait John Reese Europe étaient des compositions qu'il avait, enfin, des morceaux qu'il avait composés en France et qui rappelaient justement l'investissement de l'effort des Noirs américains dans l'effort de guerre. Voilà.
C'est étonnant parce que la guerre de 14, c'est aussi le camembert hein, qui a circulé.
Oui.
Alors, eh ben oui.
Il y a plein de choses.
Voilà. non, mais c'est étonnant parce que le camembert, pour nous, c'est un produit qui circule largement.
En France, oui.
Mais à l'époque, il ne circulait pas. Et c'est pendant la guerre de 14 que ça a circulé. Mais la musique, c'est quand même plus facile que ça circule.
Oui.
Sauf que si on avait appliqué la loi Jim Crow, Jim Crow, normalement, il ne serait jamais venu.
Voilà, il ne serait jamais venu.
Et on aurait pu avoir des Noirs qui viennent et qui n'est pas un orchestre. Non
oui,
plus,
mais, hein. Mais là, en plus, la force de Europe, c'est qu'il se servait de son... Enfin, il le dit, il se sert de cet orchestre, justement, pour valoriser la culture noire américaine, pour montrer aux yeux du monde que les Noirs ne sont pas ce que raconte la propagande américaine, des grands enfants un peu idiots et qui sont contents de leur sort et ce genre de d'ânerie raciste.
Et du coup, la graine de jazz va prendre en Europe.
Ouais, hein. Et particulièrement en France. Mais la France a toujours eu un rapport très... a toujours été... Enfin, très tôt, je pense que ça vient de 14, encore une fois, de la guerre 14. La France s'est très vite enamourachée du jazz, oui.
Moi, je pensais que c'était plus tard, mais avec
ça a continué.
Oui, avec ton livre, j'ai compris que c'était dès les années 20.
Ouais,
quoi.
Voilà.
Et c'est là que tu as un chapitre sur le blues féminin. Alors, c'est peut-être ça que j'ai pas bien compris. Pourquoi il était là
dans le jazz.
Oui.
Alors on en avait parlé avec mon éditeur. Donc il y a des parties, effectivement. Il y a une partie qui s'appelle spiritual, une qui s'appelle blues. Spiritual, blues, jazz, rhythm and blues, soul, funk et hip-hop.
Oui.
Et en fait, elles sont complètement factices, ces frontières. Oui. Parce qu'en fait, c'est justement ce que je voulais qu'on se rende compte à travers le livre, c'est que c'est plus chronologique que véritablement stylistique, parce qu'en fait, toutes ces musiques ne forment qu'une seule musique. En fait, c'est comme si, je vous ai dit, la racine spirituelle, et après, ça fait un arbre, en fait. Mmh. Et qu'on prenne le hip-hop ou qu'on prenne le blues. Enfin, la plupart des jazzmen, les grands de Miles Davis à Coltrane, disaient qu'ils jouaient du blues. Ils disaient ça. Beaucoup de samples de la première génération hip-hop, c'est du funk. Le funk s'inspire des polyrythmies africaines. Enfin, donc, il y a vraiment... La soul s'inspire du gospel, mais aussi du rhythm and blues. Donc, et le rhythm and blues s'inspire du swing. Enfin, donc, vraiment, c'est toute une... Et le blues classique, donc, qui a été mis en valeur essentiellement par des femmes, donc Ma Rainey, dont on parlait, Bessie Smith et bien d'autres encore, il est mélangé déjà avec le jazz. On a entendu par rapport aux orchestrations, aux cuivres, etc. Le blues primitif, il n'y a pas de cuivre qui joue derrière.
Il y a la guitare.
Voilà.
Ouais.
Ou le piano.
Ou le piano, oui. En tout cas, c'est vrai que, par exemple, dans le jazz, toutes les particularismes stylistiques du jazz, c'est vraiment ceux qui s'y connaissent vraiment qui vont les évoquer. Parce que dans tout ce que tu viens de nous dire, nous ce qu'on retient, c'est du jazz ou du blues, mais en tout cas, c'est pas... à part le free jazz, où là, on le repère très très bien, sinon, le bebop, enfin, tous ces trucs-là, on l'a vu comme une succession de musiciens qui arrivaient avec une particularité, mais pas plus que ça, non ?
Je pense que effectivement, c'est la vision que donnaient les maisons de disques, la presse spécialisée qui était aux mains des Blancs. Mais en fait, le jazz, tu parlais du free, mais en fait, c'est l'aboutissement d'une radicalisation. Parce qu'en fait, contrairement au blues, qui au départ s'adressait seulement, essentiellement... Oui, il devait peut-être y avoir un ou deux Blancs qui traînaient, qui devaient... particulièrement dans le Sud, je pense que c'était plus dans le Sud, dans le Nord, qui devaient aimer le blues. Mais le jazz a très tôt séduit les Blancs, la population blanche américaine, et notamment des musiciens Blancs qui se sont dit « Mais moi aussi, c'est trop belle cette musique, j'ai envie d'en faire. » Et donc, la différence entre... C'est un art appris, du coup. C'est un art copié, appris. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de très grands musiciens de jazz blancs, mais en fait, il y a surtout les maisons de disques vont valoriser les musiciens blancs, aux dépens des véritables créateurs. et vont en plus aseptiser le plus possible cette musique pour lui enlever justement le, parce qu'il y a le côté le puritanisme aussi, parce que cette musique elle est associée au diable, elle est associée au sexe, et donc voilà, la danse, etc. Il y a un truc vraiment
il y a un truc très sexuel, ouais, sur scène,
et que du coup c'était, oui, pour le puritanisme américain blanc, c'était pas possible. Voilà, les clubs de jazz en plus c'était des endroits où il pouvait y avoir des blanches qui dansaient avec des noirs, enfin il y a tous les fantasmes autour de racistes et puritains autour de l'homme noir et de ce qui peut pervertir les femmes blanches. Donc il y a vraiment le jazz, il fallait le blanchifier en fait. Ouais. Et donc on valorise des musiciens blancs. À cette époque-là, en plus, ils ont tendance à jouer, parce qu'ils ont peu écouté encore de jazz, ils ont peu fréquenté, même s'ils en fréquentent, ils en ont écouté, il y a moins de disques. Aujourd'hui, on peut écouter de la musique très très facilement, mais à l'époque, c'était pas aussi simple que ça. Donc, surtout qu'encore une fois, on est dans une société ségrégée, donc même si les clubs tenus par des noirs sont ouverts aux blancs, ce n'est pas le cas pour l'inverse. Enfin, oui, c'est ça. Donc, du coup, on blanchifie cette musique, et donc les véritables créateurs vont du coup radicaliser leur musique. Et le bebop, par exemple, c'est vraiment un retour aux sources, c'est au côté africain du jazz, justement, les polyrythmies, des rythmes compliqués pour justement, puisque les blancs à l'époque ne pouvaient pas vraiment encore bien les jouer, ils vont y arriver, bien évidemment, mais vraiment, il y a une volonté de radicaliser et de revenir aux racines du blues, aux racines africaines du jazz, en fait. Et ça aboutira au free, justement, déconstruire, justement, tout ce que... Voilà, tout ce qu'avait été... Oui, c'est une course en avant à chaque fois, en fait. C'est vraiment... Je transforme ma musique pour pas qu'on me l'approprie, en fait. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et pour que mon message continue à être diffusé. Parce que la plupart des jazzmen du courant free des années 60-70, ils sont très proches de Malcolm X, de la pensée de Malcolm X, des Black Panthers. Voilà, on n'est pas... Il y a une conscience révolutionnaire, il y a une conscience politique derrière très, très forte. Mm-hmm. C'est pas seulement déconstruire des morceaux pour faire soi-disant des notes fausses. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment une déconstruction et on sent d'ailleurs le free, il est aussi très influencé. C'est là qu'il n'y a pas beaucoup de frontières, parce que si on écoute certains albums d'Archie Shepp, il est très influencé par le côté funkadélique, par Jimi Hendrix, par le côté rugueux, justement, les sons. Voilà, donc c'est vraiment le funk. Enfin voilà, il y a vraiment un retour. Et le funk, c'est ça aussi, c'est un retour aux racines africaines. James Brown, il y a vraiment une volonté de retour, de récupérer sa musique et de réaffirmer son identité noire et africaine.
Mmh. Alors, on va revenir aux femmes.
Oui, hein, parce que là, on s'éloigne.
Parce que là, on ne parle que des hommes.
Oui, hein, je suis désolée. Oui. Mais parce qu'on a parlé de la guerre et voilà. Donc, du coup...
Alors, du coup, le jazz arrive. Mmh. Dis-nous la place des femmes dans le jazz. Parce que dans le blues, on le voit, surtout en tant que chanteuse... Hein? Mais alors, musicienne et chanteuse dans le jazz, dans l'entre-deux-guerres, on va parler.
L'entre-deux-guerres, en fait, le problème, c'est que l'historiographie ne les a jamais mises en avant, mais il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup, et je pense, parce qu'en fait, là, c'est encore une fois, on va casser les frontières. C'est comme une musicienne qui, comme beaucoup de musiciens noirs américains, qu'ils soient hommes ou femmes, a commencé sa carrière très tôt. Quand je dis très tôt, c'est à 4 ans à l'église, sur les genoux de sa mère, qui était organiste. Ouais. C'est la précurseuse du rock'n'roll, mais qui jouait au Cotton Club en première partie de je crois que c'est Duke. Hein. Je sais plus si c'est Count Basie ou Duke Ellington, un des deux grands orchestres. Donc c'est Rosetta Tarp, qui était une guitariste et qui chantait du gospel, mais du gospel qui s'apparentait au blues, mais sauf comme il était accéléré, ça rappelait le swing, et donc c'est déjà le rhythm and blues, c'est déjà le rock, en fait. Donc, elle, c'est vraiment la précurseuse. C'est sans elle, pas d'Elvis Presley, par exemple. C'est sûr et certain. Et c'est une des premières à utiliser la guitare électrique. Donc, elles sont là, mais on les a pas valorisées.
Bien sûr.
Voilà, mais elles sont là.
Enfin, c'est un nom quand même qu'on retient.
Oui. Rosetta Tarp. Ouais. Ouais.
On la retient. Hein. Après, comment tu situes le rhythm and blues dans toute cette évolution ?
Ben alors, c'est à la fois, il y a... si on prenait les années 20, justement, c'est une époque où on enregistre énormément de chanteuses. Une femme comme Bessie Smith est une des premières stars noires américaines. Hein. Elle vit bien, elle part en tournée, elle arrive même à poser certaines choses dans le Sud parce que justement, parce qu'elle rappelle une sorte de nostalgie du Sud. Elle plaît aussi chez les Blancs, et c'est parmi les premiers à faire des concerts où il y avait des carrés dans les salles noires, où il y avait des carrés pour les Blancs qui venaient la voir, vraiment. Elle avait eu en plus une forte tête, donc elle pouvait, et comme elle avait, qu'elle était soutenue quelque part, enfin par sa personnalité et parce qu'elle représentait socialement, elle tenait tête au système de Jim Crow. Fallait pas qu'elle aille trop loin, je vous rassure, parce que elle avait beau être une star, elle aurait pu très mal finir. Mais donc les années 20, c'est une année, c'est les après-guerres, on a envie de faire la fête. Il y a, c'est le plein emploi. Enfin, c'est on est et puis arrive
dépression.
Voilà, la dépression. Et là, ça va être une claque pour les musiciens noirs, qu'ils soient hommes ou femmes, parce qu'à l'époque, c'est les grands orchestres de jazz. Ben là, tout d'un coup, on emploie de moins en moins de noirs dans les orchestres. Des blancs, oui, toujours, parce que les clubs pour les riches sont encore ouverts, mais c'est de plus en plus des orchestres de blancs. Et puis, va arriver la Seconde Guerre mondiale, qui va faire que là, les noirs vont participer à l'effort de guerre. Donc, beaucoup de musiciens vont partir à la guerre. Il y a en plus rationnement à la fois de vêtements, mais aussi d'essence, qui fait que les tournées dans le sud, elles vont être coupées. Les big bands, pour des raisons économiques, pour des raisons de guerre, explosent. Et donc, les maisons de disques, elles veulent continuer à faire de l'argent, en fait. Elles veulent continuer à faire de l'argent. Et il se trouve que les mélanges ont fait que le rhythm and blues, c'est un mélange de swing, donc ce jazz à faire danser des années 20 et 30, surtout 30, avec moins de musiciens. Et avec, donc c'est un blues plus rapide en fait, avec où les rythmiques est plus mis en avant et où il y a deux instruments qui vont prendre le relais du big band, c'est le saxophone et la guitare électrique surtout. Voilà, donc c'est vraiment, et ça s'adresse essentiellement à les maisons de disques se cherchent encore une fois à toucher le prolétariat noir américain qui est friand de rhythm and blues, et d'ailleurs qui se reconnaît plus dans le rhythm and blues qu'il se reconnaissait à la fin dans le jazz, qui pour eux était devenu une musique aseptisée pour les blancs. C'est pour ça qu'ils vont chercher le prolétariat noir. Les paroles du blues, du rhythm and blues, du blues urbain, etc., c'est plus proche de leur réalité de vie. Les sonorités sont plus proches du monde dans lequel ils vivent, ces grandes villes qui font du bruit. Et du coup, c'est des instruments, la guitare électrique comme le saxophone, qui sont utilisés presque comme des gémissements, des cris humains, enfin comme une voix humaine en fait, et pas comme quelque chose de mélodieux. Et on retrouve énormément de chanteuses dans le mouvement rhythm and blues. Je citerai par exemple Big Mama Thornton, a enregistré la première version de Hound Dog que la plupart des gens connaissent, interprétée par Elvis, mais je vous conseille d'écouter celle de l'original, parce que là on est dans le blues, dans le rhythm and blues. Là vraiment à côté on dirait un enfant de cœur, Elvis Presley, hein. Mais il y a aussi Ruth Brown, qui est une des précurseuses du rhythm and blues, qui était une star au sein de la communauté noire alors que les blancs ne la connaissaient pas. Donc les femmes ont aussi encore une fois un rôle très très important.
Et en tant que chanteuse et compositrice.
Et compositrice, c'est ça aussi qui est intéressant.
Voilà.
Elles ne sont pas que chanteuses. Voilà, elles sont interprètes. Elles sont aussi compositrices, tout à fait.
Est-ce qu'on peut juste parler un petit peu de Billie Holiday?
Bien sûr.
Parce que quand elle chante Strange Fruit, quand même, moi, j'ai des frissons, quoi.
Bah oui, parce que la force de Billie Holiday, c'est d'avoir justement réussi, par son interprétation de ces paroles terribles, qui racontent une réalité presque, enfin, en tout cas hebdomadaire. Faut savoir que j'ai plus les chiffres en tête, je sais qu'entre 1898 et 1908, il y avait 2 lynchages par semaine aux États-Unis. Deux personnes noires qui se faisaient tuer aux États-Unis par des foules blanches, légalement, et même qui étaient fiers de ça, qui prenaient des photos. Il y a des cartes postales qui étaient vendues avec des corps d'hommes et de femmes suspendus à des arbres. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de l'ultra-violence assumée. Et donc, il y a beaucoup de bluesmen avaient chanté l'atrocité des lynchages. Mais comme les bluesmen s'adressaient à leur communauté, la plupart des Blancs n'entendaient pas ces morceaux qui racontaient les horreurs du lynchage. Billie Holiday n'est pas la première à avoir chanté ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une association entre un communiste d'origine polonaise, je crois, juif, qui avait fui les pogroms européens, l'antisémitisme européen, et qui a écrit cette chanson pour Billie Holiday, et qu'elle a tout de suite pris sur elle. Certainement son plus grand investissement artistique et personnel sur ce morceau. C'était très dur pour elle de le chanter, mais du coup, comme elle s'adressait à un public blanc, pas seulement noir mais aussi blanc, les blancs vont se prendre cette interprétation progressistes, les blancs progressistes, hein, pas les, mmh. les racistes du fin
pas,
fond.
Pas,
de...
pas les occultes
voilà, voilà. Mais en tout cas, ça va éveiller une partie de la population blanche aux horreurs de la condition des Noirs. Mmh. Et donc, du coup, ce morceau, oui, c'est vraiment... et Billie Holiday en particulier a permis à ce que, tout d'un coup... la violence d'État, la violence à la fois individuelle, parce que chaque homme blanc du Sud est un geôlier un policier du système. Hein. Il peut tuer un noir, il va rien lui arriver en fait. Il va passer devant un tribunal. J'ai envie de mettre des guillemets, beaucoup de guillemets, parce qu'en général, à chaque fois qu'un blanc tue un noir, il s'en sort peinard avec un jugement bâclé. Donc vraiment, elle va éveiller une partie de la population blanche américaine aux horreurs du racisme systémique. Et donc, vraiment, oui, c'est un moment très important, Strange Fruit, parce que, du coup, les Noirs ont été au courant de ces horreurs, mais en tout cas, ça va permettre à une partie de la population blanche de s'éveiller et de se joindre au mouvement qui est déjà très avancé, puisqu'on entre vraiment, voilà, on va rentrer dans le mouvement...
Et puis qu'on va retrouver dans les années 60, voilà, pour voilà. les droits civiques.
Voilà, exactement.
Hein. Là, on va écouter Nina Simone.
Oui,
hein
oui.
Et puis on en parle après.
Ouais.
Mississippi Goddamn is our last tune. We had some requests for it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. Can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. About do. I've been there, so I know they keep on saying, go slow. That's just the trouble.
Do so.
Washing the windows.
Do so.
Picking the cotton.
Do so.
We're just plain rotten.
Do so.
We're too damn lazy.
Do so.
I think it's crazy.
Do so.
Communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. But my country is full of lies. We all flies. I don't trust nobody anymore. They keep on saying go slow. That's just the trouble.
So.
Desegregation.
So.
Mass participation.
So.
Unification.
So.
Do things gradually.
Do
Simone, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce choix-là pour ce soir?
Alors, en fait, c'est Nina Simone, c'est une des figures de, à la fois de, j'aime bien, enfin, c'est pas moi qui aime bien diviser, c'est les historiens qui ont tendance à diviser les luttes noires de post-Seconde Guerre mondiale jusqu'à 75, donc en deux blocs, 55-65, c'est donc la période dite des droits civiques, et 55-75, plutôt la période dite du Black Power. Et donc, Nina Simone, elle traverse les deux périodes, en fait. Elle traverse les deux périodes, et puis elle fait comme beaucoup de Noirs, elle va se radicaliser à mesure que... Parce que c'est pareil, on imagine toujours les droits civiques comme quelque chose que tout allait s'effondrer facilement, mais en fait, c'est d'une ultra-violence d'État, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, hein, qui va faire que beaucoup de Noirs vont se radicaliser, si, ne serait-ce que par exemple Martin Luther King. Martin Luther King, au départ, il avait son idée, c'était de s'insérer au système, et après 1965, il va de plus en plus critiquer la guerre du Vietnam, et surtout va dire, bah, en fait, le problème, c'est qu'il faut renverser la société, c'est parce que le problème, c'est le capitalisme. Ce qui expliquera, ce qui est l'une des explications de son assassinat. Mais c'est la même chose avec Malcolm X. Malcolm X aussi va changer son, va critiquer de plus en plus le capitalisme après sa conversion au sionisme. Mais j'arrête avec les, parce que encore une fois on parle d'hommes. Revenons à Nina. Donc Nina Simone, c'est une pianiste surdouée, chanteuse qu'on peut classer soul, qu'on peut classer jazz, mais elle fait aussi du blues, elle fait aussi du gospel. Et en fait, elle était très investie dans la lutte au moment des années 60. Et quand on arrive en 65, en fait, c'est le moment où les lois Jim Crow tombent, c'est-à-dire que la ségrégation tombe dans le Sud, les Noirs vont enfin avoir le droit de voter dans le Sud, vont pouvoir aller à l'école, même si on va mettre de plus en plus de barrières beaucoup plus subtiles, exactement. Mais voilà, il y a cette première victoire qui est remportée. Et il y a une partie de la population blanche qui ne supporte pas ça. Et dès que le président Johnson annonce la fin de la ségrégation en 65, quelques jours plus tard, il y a une bombe qui explose à Birmingham, dans l'Alabama, contre une église. Le jour du catéchisme, il y a trois jeunes filles noires qui vont mourir à cause de cet attentat à la bombe. Trois jeunes filles, d'ailleurs, que connaissait Angela Davis, puisqu'elle est originaire de Birmingham, c'était ses voisines, donc elle a aussi énormément été affectée. Nina Simone aussi a été énormément affectée, et elle a entrepris d'écrire ce brûlot contre les États racistes du Sud, que sont l'Alabama, le Mississippi, et contre la population blanche, une partie en tout cas, mais majoritaire de la population blanche, qui ne supportait pas que les Noirs puissent être les égaux des Blancs, du coup, et qu'ils perdent leurs privilèges. Donc ça, c'est un des nombreux attentats qui ont lieu à cette période-là, et ce morceau, justement, était à la fois pour dénoncer, encore une fois, la barbarie du racisme systémique américain, et rendre hommage à ces filles qui sont mortes à cause du racisme systémique américain. C'était voilà, mais elle, c'est pas le seul morceau qu'elle a fait. Il y a un autre morceau afroféministe magnifique qui s'appelle For Women, justement, qui décrit la condition des femmes. Déjà, qui décrit qu'une femme noire, ça veut rien dire, qu'il y a plusieurs voilà. Donc elle part de la femme noire la plus claire de peau jusqu'à la plus noire de peau, et justement en expliquant que plus la peau est noire et plus on est discriminé, encore une fois. Et c'est un bel hommage, encore une fois, aux femmes noires, For Women. Mais oui, il y a énormément de morceaux chez et surtout d'investissement, des concerts pour récolter de l'argent. Enfin, voilà. Et puis, elle ouvrait sa bouche. D'ailleurs, elle va le payer, en fait. Elle va très vite être ostracisée du monde de la musique. Parce qu'encore une fois, elle disait tout haut ce que beaucoup de gens ne voulaient pas entendre.
Et à cette période-là, il y a d'autres femmes qui apparaissent.
Il y a Aretha Franklin.
Voilà.
Aretha Franklin, parce que le morceau Respect, donc le premier qui l'a chanté, c'est Otis Redding, mais la version d'Aretha Franklin, c'est là aussi, c'est la même façon que Billie Holiday, en fait. C'est tout d'un coup, elle transcende des morceaux. C'est-à-dire qu'il y a cette façon de prendre un morceau qui existe déjà et de lui faire dire encore autre chose. Un morceau qui était déjà une demande de respect amoureux, mais on sous-entendait aussi un respect de l'homme noir, en fait, dans la société américaine. Elle va plus loin. Ça devient un hymne afro-féministe et féministe du coup. Vraiment un respect pour... Et quand elle scande Respect, les choristes, voilà, il y a vraiment une... c'est je crie
une
à l'Amérique,
force, ouais, une force, force
voilà,
ouais.
C'est pas hasard si ce morceau a été marqué la terre entière, en fait. C'est vraiment c'est un hymne féministe très très fort. C'est la version d'Aretha Franklin, celle d'Otis Redding, c'est autre chose. Voilà. Mais c'est pareil quand il y a Cette version, moi, que j'adore, de Change Is Gonna Come de Sam Cooke, chantée par Lauryn Hill, par les Fugees, en acoustique, qui date de 96. C'est-à-dire qu'elle récupère un morceau qui fait partie de l'histoire de la lutte noire américaine, mais elle le récupère à sa manière. Et vraiment, la version de Lauryn Hill, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Mais encore une fois, j'insiste bien là-dessus, parce qu'on focalise sur Aretha Franklin, Nina Simone, Angela Davis. Mais en fait, il y a vraiment une tradition. Elles sont... Il y a toutes ces inconnues aussi. Il y a vraiment une tradition de lutte chez la femme noire qui est là, encore une fois, depuis l'esclavage. L'une des femmes les plus importantes de l'histoire de la lutte au moment de l'esclavage, c'est Harriet Tubman, qui était une ancienne esclave qui a réussi à fuir vers le nord et qui a fait pas moins de 59 voyages pour aller récupérer des hommes et des femmes du sud pour les aider à fuir. Donc, elle est vraiment une des premières à dénoncer les lynchages systémiques. C'est une journaliste qui s'appelle Ida, et j'ai plus son nom de famille, j'ai honte, parce qu'il y a eu tellement de noms dans cette histoire, donc j'ai un problème avec les noms. Mais qui était journaliste et qui répertoriait chaque jour dans son journal, dans tous les États du Sud, les lynchages. On lui a brûlé ses bureaux à Memphis. Elle a dû fuir à New York parce qu'elle était menacée de mort, mais elle a continué. Donc il y a vraiment. On finira avec Black Lives Matter. Enfin, ce sont des femmes queer, noires, qui ont fondé ça. Enfin, parce qu'il y a une vraie tradition de lutte chez la femme noire. Elles sont le fer de lance du progressisme, au vrai sens du terme, aux États-Unis. Parce que au plus en bas de cette société inégalitaire, donc c'est normal, quand on est en bas, on se révolte. Et on essaye de... Voilà. Donc, elles ont une vision à la fois féministe, à la fois raciale, à la fois sociale et politique très avant-gardiste dans l'histoire des États-Unis. Et c'est pas un hasard si Angela Davis, ses écrits sont aussi intéressants, elle émet une critique des États-Unis très juste. C'est parce qu'encore une fois, il y a une tradition très ancienne chez les femmes noires de lutte politique.
Et là, tu nous as proposé, parce que la suite de ton livre, il y a le chapitre funk, puis après le disco. Tu nous as proposé quelqu'un que je ne connais pas du tout, Candy
Staton.
Ouais. Tu peux nous en parler aussi.
Alors, donc c'est un morceau qui s'appelle Young Hearts Run Free, un morceau de disco soul. Donc c'est la voix est très soul. Les instrumentations finalement ressemblent à de la soul up tempo, donc un peu à du funk en fait, parce que le disco c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que le disco en fait? Au début, dans les discothèques, on dansait sur du funk en fait. C'est que c'est un terme qui a été inventé par les maisons de disques en fait, parce que c'est de la musique qui était faite pour les discothèques. Mais au départ, le disco c'est autant de... Un des premiers tubes disco, c'est un morceau de Manu Dibango, qui est un morceau d'afro-funk, en fait. Et dans les premières discothèques, encore une fois, on dansait sur James Brown, on dansait sur les morceaux de la Motown, de la soul, etc. Mais très tôt, il y a une figure qui va se détacher dans les musiques des clubs, parce que le disco, c'est à la base, c'est un mouvement qui se développe à la fois sur des musiques noires, et par la communauté LGBT, beaucoup de gays qui, en fait, vont prendre pour exemple les luttes noires pour leur propre émancipation en fait. Le Black Power a servi d'exemple aux luttes féministes américaines comme aux luttes LGBT, mais aussi amérindiennes. Les Amérindiens vont, parce que comme il y avait une vraie tradition de la lutte chez les Afro-Américains, on a cherché à s'inspirer d'eux. Et donc la figure de la diva du disco est très importante dans le mouvement, dans son côté sociopolitique, le mouvement disco, parce que c'est cette figure de chanteuse qui à la fois féministe et puis que mettent en avant les queers, les trans, etc. Et donc il y a toutes ces chanteuses qui beaucoup ont commencé dans la soul en fait et sont passées au disco dans les années 70 vont valoriser une forme de liberté à la fois sexuelle, féminine, d'assumer sa sexualité, liberté d'indépendance. Et ce morceau, pour moi, il est très symptomatique, parce que c'est une chanteuse qui raconte, en fait, elle a vécu un truc terrible. Elle était avec un homme violent qui ne supportait pas qu'en plus elle soit chanteuse et reconnue, parce qu'il y a ça qu'on retrouve chez énormément de parcours de femmes musiciennes noires. Je fais une petite discrétion, mais Tammy Terrell, qui était l'alter ego, l'âme sœur de Marvin Gaye au début et qui est morte, et eux ils s'entendaient très très bien, ils n'étaient pas ensemble, mais c'était vraiment un couple à la scène fabuleux musicalement à tous les niveaux. Elle a commencé sa carrière à 17 ans avec James Brown, elle était James Brown en avait 30, c'était son amant, et il lui tapait dessus. Après, elle travaille avec un chanteur des Temptations qui lui tapait dessus aussi, parce qu'il ne supportait pas, encore une fois, cet esprit d'indépendance de chanteuse, voilà, etc. Et du coup, Candy Staton, elle raconte qu'elle a écrit ce morceau suite au fait qu'elle jouait à la Vegas un soir en première partie de Ray Charles dans les années 70, c'est que son mec ne supportait pas tout ça et qu'il a voulu la tuer en fait. Qu'il a voulu la tuer, qu'elle s'en est sortie. Je rentre pas dans les détails, ça peut durer longtemps, mais elle s'en est sortie. Et ça, C'est un hymne à, justement à la libération de la femme, à l'idée que waouh, il faut se battre et que je m'en suis sorti, vous pouvez vous en sortir. Enfin voilà, c'est vraiment un hymne et le disco est très lié au féminisme et très lié encore une fois aux luttes noires et aux luttes LGBTQ+. Voilà.
Voilà. Eh ben on va écouter Candice.
Sense in sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man.
D'écouter Candice Staton. Staton, oui. Nous sommes toujours en compagnie de Christophe Hillat-Sommer dans l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire. Alors là, on termine ce temps d'échange. Donc, avec la question au travers de. Bon, c'est un gros livre, hein, Le son de la révolte. Au travers de tout ça, c'est quoi la place des femmes, on va dire aujourd'hui, hein, aujourd'hui dans la musique noire américaine?
Ben, en fait, elles ont plus ou moins toujours la même place, c'est-à-dire que elles ont toujours été là, vraiment toujours, et pas seulement, encore une fois, en tant que chanteuse, mais même en tant que productrice. Hein, je pense par exemple à Sylvia Robinson qui qui était une des précurseuses du hip-hop, celle qui a produit les premiers tubes de hip-hop comme... comme The Message de Grandmaster Flash, pour ceux qui connaissent. Donc, en tant qu'instrumentiste, en tant que compositrice, elles ont toujours été là. Après, c'est toujours le même principe. Ce sont des hommes qui montent les images, donc ils ont tendance à les invisibiliser, en fait. Mmh. Mais là, on voit, par exemple, ce que fait Beyoncé aujourd'hui. Enfin, il y a quand même pas mal de femmes noires qui ont réussi à montrer l'importance, le rôle qu'elles jouaient à la fois dans l'identité américaine, l'identité africaine-américaine et dans la musique noire américaine. Mais ce qu'il faut, c'est raconter au maximum, parler d'elle au maximum, en fait. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Moi, je me suis rendu compte qu'encore une fois, pour moi, suite à mes recherches, suite à ce que j'ai appris sur l'histoire de l'Amérique noire, c'est elles qui sont le fer de lance de la lutte, encore une fois. C'est elles vers la justice sociale, c'est elles qui la pensée, encore une fois, de nombreuses femmes noires américaines. Elles sont en avance sur énormément de choses, justement, sur une critique, encore une fois, du système capitaliste, sur une critique du consumérisme, une critique du sexisme, du racisme. Elles sont, et voilà, et en plus avec une volonté d'ouvrir l'espace, c'est-à-dire de relier les luttes, en fait. Elles sont inclusives, elles n'ont pas une vision, c'est d'abord ma petite cause qui compte, et puis après on verra les autres, etc. Non, il y a vraiment... Pour moi, et les musiciennes, encore une fois, ont participé à ça, énormément. Mmh. On parlait de Billie Holiday, Nina Simone, mais même Beyoncé, là, son travail sur, justement, montrer que, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert très tardivement, mais que même la country, en fait, à la base, c'est une musique noire américaine, et pas une musique de blanc, en fait. Ouais. Et c'est ce qu'elle fait. Enfin, il faut savoir que quand elle allait chanter au Country Awards, il y avait on est en 2016, je crois, c'est peu de temps avant la première élection de Donald Trump, il y a des insultes racistes dans la... On parle de Beyoncé, elle est déjà au sommet. Voilà, il n'est pas question qu'une noire chante de la country, quoi. Et donc, on est en 2016 aux États-Unis, quoi. Mmh. Voilà. Mmh.
Donc, Mais j'ai vu un film, moi, sur... Je vous salue, salope. Qui s'intitule comme ça. Et il y a quatre femmes dans quatre pays différents. Mmh. Et en particulier, une noire américaine qui est... parce qu'elle est une femme publique. Mmh. Elle est politique. Mmh. Elle joue dans la cour publique. Elle a été complètement, attaquée. Elle est obligée de déménager sa maison. Explosée et tout. Après, dans le film, il y avait une Italienne pareille, mais forcément, avec Mélanie, ça s'est mal passé. Voilà, c'est-à-dire que les femmes dans l'espace public, de toute façon, sont attaquées.
Tout à fait.
Elles n'ont pas le droit de prendre la place dans l'espace public.
La place que nous, on a le droit de prendre, les hommes. C'est...
Et ça, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui.
Mais on hérite de millénaires du patriarcat et du capitalisme.
En plus, le problème, c'est que si on prend les États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas fait le travail de mémoire, en fait. Ouais. Ils n'ont pas cherché à se remettre en cause, en fait. Ouais. Et pourquoi se remettraient-ils en cause, vu que, encore une fois, le système sert... la minorité qui devrait se remettre en cause le ferait, vu que elle perd ses privilèges, bien sûr.
Ah, oui, c'est ça.
Mais oui, mais quand on dit que les femmes sont toujours en lutte, Black Lives Matter, c'est né sous Obama. Hein.
Oui.
C'est sous Obama que c'est né. Et les femmes noires dénonçaient les violences policières qui se poursuivaient malgré le fait qu'il y a un président noir, en fait. Mmh. Beaucoup de blancs ont cru, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de racisme aux États-Unis parce qu'il y a un président noir. Mais les violences policières sous Obama, c'est effroyable. C'est du niveau des lynchages au début du siècle, en fait. Mmh. C'est que la police tue des personnes noires presque quotidiennement aux États-Unis sous Obama. Mmh. D'où la naissance de Black Lives Matter.
Et vous savez qu'en ce moment, dans une très grande avenue de Washington, c'est écrit Black Lives Matter, ils sont tout repeints. Ils sont tout en train de repeindre. Des lettres immenses. Et ils sont en train de tout repeindre.
C'était une œuvre d'art, qui avait demandé le maire de Washington, le dernier maire de Washington, et Donald Trump a demandé à ce que tout soit effacé.
C'est horrible. Horrible.
Bon, tu vas nous parler, juste avant que tu t'en ailles, de Lauryn Hill, puisque tu nous as choisi une chanson aussi de
interprétée par Lauryn Hill.
Alors c'est Lauryn Hill toute seule, c'est pas avec les Fugees, c'est quand elle a enregistré son premier album qui est mythique. Et en fait, c'est pareil parce que... Alors on a plus trop le temps, mais la vision qu'ont beaucoup de gens du rap est complètement galvaudée. D'abord, de quel rap on parle, de quelle époque. Puis il y a la côte ouest, c'est pas la côte est, c'est pas les mêmes conditions socio-économiques historiques. Ce qui fait que le gangsta rap, celui qui a été complètement stigmatisé à Los Angeles, est aussi violent, c'est parce que la société de Los Angeles et la police particulièrement à l'encontre des prolétaires noirs et d'une ultra-violence, c'est une armée d'occupation dans les quartiers noirs, donc c'est une réponse, on raconte comme les bluesmen racontaient on raconte la violence du quotidien et ce qui n'empêche qu'il y a une attitude viriliste qu'on retrouve chez certains rappeurs et dont les rappeuses n'étaient pas les dernières pour les dénoncer. Et donc dans ce classique, c'est un classique de Lauryn Hill, ceux qui connaissent bien Lauryn Hill et bien le hip-hop et même ceux qui connaissent moins, voilà, c'est vraiment un grand classique et c'est une démonstration avec de virtuosité avec les mots. Elle joue avec les mots autour de... C'est une destruction en règle du machisme des rappeurs. Voilà. Et justement, c'est toujours cette idée, c'est ce que disait Angela Davis, pour arriver à être libéré, il faut d'abord que l'homme noir se libère du sexisme et que, enfin voilà, qu'il faut déjà, il y a toujours cette idée que ça ne se fera pas tant que l'homme noir oppressera la femme noire, en fait, et que ça doit se passer à deux et que pour détruire le système, il faut d'abord qu'on s'unisse et qu'on détruise le sexisme qui existe dans notre communauté. Et c'est ce que raconte avec beaucoup d'humour et beaucoup de virtuosité Lauryn Hill dans ce morceau.
Bah écoute, on va terminer sur ces bonnes paroles. Merci à toi. Et puis, on rappelle quand même que on peut te retrouver sur les antennes de Radio Libertaire tous les troisièmes mercredis du mois de 17h à 18h30 pour Soul Power. Voilà, et on termine avec Lauryn Hill.
Girls, you know you better watch out. Some guys are only about
looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauryn is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo, win-win, come again. With his rims and his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they defend, popping yang.
Like you got yang.
Let's not pretend. The one that packed pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face, man. Claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick job asking them stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, come again.
Yeah.
Voilà, on a terminé l'entretien avec Christophe Elasommer, Le son de la révolte, un livre qu'on peut se procurer à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et on va passer aux informations. Alors, la première des infos qu'on a déjà dit les semaines précédentes, c'est la Maison des Femmes de Paris. Qui a perdu une partie de ses subventions, mais dans le secteur social, de toute façon, ça va continuer. Hein? Voilà, et qui donc fait un appel depuis le mois de septembre, d'ailleurs, hein, je crois. Je les avais rencontrés dans un festival de cinéma. Un appel aux sous. Je rappelle que c'est la Maison des Femmes de Paris qui a été ouverte dans les années 80, aujourd'hui qui est au 163 rue de Charenton dans le 12e. Le contact, c'est MDF de Paris, secrétariat@orange.fr. Le lien, c'est mdfparis.fr. Et je rappelle aussi que c'est un espace d'initiative de solidarité féministe. Voilà. Et puis, on peut aussi un autre mail, mdfdeparis@gmail.com, et le téléphone 01 43 43 41 13. Et pour les soutenir, eh bien, on va sur Hello Asso. On cherche association et ensuite Maison des Femmes de Paris.
Macho hors de nos chantiers, de rêve et de parpaing. C'est un film qui est projeté le jeudi 20 mars, donc demain, de 19h à 22h au centre Anim Ken Saroviva, 63 rue de Buzenval, dans le 20e. Il y aura des participantes au chantier et au fil.
Au film.
Film. Non. Les enchantières, association de femmes qui partagent les savoirs du bâtiment, se lancent dans la construction de leur propre atelier à Montreuil. Au départ utopique, ce grand chantier participatif, ouvert à toutes, se transforme en une aventure collective émancipatrice, nourrie de révoltes et de rêves.
Et alors, c'est soutenu par la CNT. Moi, je l'ai vu, le film, dans un autre festival. Et franchement, c'est un film très intéressant. Et Sylvie, la semaine dernière, nous disait qu'elle avait eu affaire aux enchantières pour des travaux chez elle et que c'était une toute autre pratique des chantiers. À l'occasion du nouvel an afghan, veille de la rentrée des classes, Négar Soutien aux femmes d'Afghanistan invite le vendredi 21 mars de 17h30 à 21h30 à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, métro Hôtel de Ville, 5 rue Lobeau dans le 4e. C'est donc le lancement de la campagne « Libérer le savoir ». Organisée par Négar Soutien aux femmes d'Afghanistan, avec le soutien de la CFDT et de Solidarité laïque. C'est un engagement pour l'éducation des petites filles afghanes et pour soutenir par là même la lutte des femmes afghanes. Ce moment est le début d'une campagne qui va se prolonger tant qu'il le faudra. Et c'est Shukriya Edar, présidente de Négar, que nous avions interviewé dans l'émission, qui nous transmet cette information. Et il faut s'inscrire sur withevent.com/libérer-le-savoir pour pouvoir rentrer, évidemment, c'est dans un cadre de l'auditorium de l'Hôtel de Ville, on n'y rentre pas aussi facilement que dans un cinéma. Voilà.
Puisqu'on parle de cinéma, au Luminor Hôtel de Ville, le 20 mars 2025, à 20h30, il y aura donc une soirée dédiée à May Haïm, qui est une poétesse et activiste. Et les lectures de ces textes seront faites par Marianne Mathéus et Sarah Fila Babakado, duo, suivie de la projection de Hoffnung im Herz de Maria Binder.
Voilà, et ben je parlais de Nora Philippe hors antenne. Girls for Tomorrow, c'est un film de Nora Philippe. L'avant-première aura lieu dans le même lieu, au Luminor, 20 rue du Temple, dans le 4e. Et la diffusion sera sur Arte le 9 avril. Le film a été tourné sur 10 années, jusqu'aux élections de novembre 2024 à New York. Et en fait, c'est un film très particulier parce qu'en 2015, Nora Philippe vient de mettre au monde un bébé qui est une petite fille. Et elle va coupler l'évolution de cette petite fille avec la rencontre de jeunes étudiantes au Barnard College. Elle rencontre Evie, Lila, Anta et Talia, qui sont des étudiantes engagées et qui embarquent avec elle dans un voyage intime et politique, aux prises avec une décennie d'histoire états-unienne marquée par l'ère Trump, première ère Trump, le MeToo, le Black Lives Matter, la crise climatique. Et ça s'arrête avant la deuxième ère Trump. Elles ont 30 ans aujourd'hui et représentent les visages de la résistance. J'ai vu le film et je vous assure que c'est très intéressant comment elle a réussi à les interviewer dans leur intimité, à la fois de vie et à la fois politique. C'est vraiment très intéressant. Une information sur l'Université Paris 8.
Et alors, oui, en effet, donc l'Université Paris 8, ça fonctionne ou pas ?
C'est oui.
Oui, il y a la projection, donc toujours dans le niveau de cinéma, il y a la projection des Ni Dieu Ni Maître qui sera projetée à l'angle mort, donc la A070 de l'Université Paris 8, qui est une salle occupée par une salle anarchiste occupée par et pour les étudiantes. Et donc il y aura lundi dernier déjà la première partie du documentaire qui a été publiée, qui a été projetée avec Tancrède Ramonet. Lundi 24 mars à 18h30, il y a l'épisode 2 sans Tancrède Ramonet, et lundi 31 mars à 18h30, il y a les épisodes 3 et 4 en présence de Tancrède Ramonet, donc le réalisateur, donc je le rappelle, à l'Université Paris 8, en salle A070, renommée L'Angle Mort par les étudiantes, donc de rue de la Liberté à Paris 8, Saint-Denis.
Et on va passer Lila Tamazit Trio, Ras la Trompe.
Je suis un tout petit pachyderme de sexe féminin. J'en ai gros sur le cœur. Ras la trompe. Ras la trompe. Les gosses sont heureux quand ils pleurent. Après, ils s'endorment. Moi, j'en ai gros sur le cœur. Celui qui a froid, il s'approche du feu. Mais moi, ma cheminée, elle fonctionne plus. Il y avait un arbre au milieu de la forêt, mais je ne l'ai pas vu. Ras la trompe, ras la trompe. Barrique sur deux poutres, c'était déjà dur à l'école. Et maintenant, je suis sur l'autre versant de la colline. Les purs et les durs m'en ont tellement fait baver que j'ai cru un instant ne plus jamais avoir envie de chanter. Ras la trompe, ras la trompe, ras la trompe, ras la trompe. Chanteuse potiche à pétition, chanteuse potiche à gala de soutien. Potiche, ça peut plus durer. Potiche, ça peut plus durer. Ras la trompe.
préfère le calme. Mais le vent continue de souffler. Feu ! Femme objet, je suis en transit. Feu ! Femme objet, je suis en transit. À quel moment l'homme qui perd un par un ses cheveux peut-il être considéré comme chauve? Qui l'a dit, Lénine? Ouais. Mais d'ici là, on a le temps de déraper. Ouais, ouais, ouais. Mais d'ici là, on a le temps de déraper. Sur le verglas.
Femmes libres sur Radio Libertaire 89.4. On continue avec des informations à la bibliothèque Jacques Dreyfus-Veil du 4 mars jusqu'au 3 avril, donc on a encore le temps. 6 rue Fessard dans le 19e, les luttes des femmes dans les années 70, un récit des archives, l'entrée est libre et il y aura une visite commentée le 2 avril à 18h30.
Du 6 au 22 mars, au CPA Pinabauche, 4 passage Stainville dans le 12e, Aoraque, porte sur les expériences vécues en tant que jeune femme dans la vingtaine, plongée dans une ville qui nous est encore étrangère. Tu veux m'expliquer ce que ça veut dire?
Ah, et maintenant quoi?
D'accord, et maintenant quoi? Ok. Alors, si ça vous intéresse, le téléphone est 01 43 41 47 87.
Du 6 au 26 mars au Centre culturel Bessie Smith, on en parlait tout à l'heure, hein. Voilà, 19 rue Antoine-Julien Hénard dans le 12e, attitude autour des représentations des femmes par l'illustratrice Saloua Zine, tout public, et le téléphone 01 40 02 06 60.
En mars et avril, au Café Fusain, 50 avenue Parmentier dans le 11e, il y a une expo « Vie par Even contre les violences policières ».
Alors, VIS, V-I-S, c'est une façon de parler des violences policières sans l'afficher en tant que telle.
D'accord.
Voilà. C'est Even qui m'a expliqué ça. Hein.
Mais c'était bien qu'il t'explique.
Jusqu'au 28 avril, alors là, c'est une expo que j'ai vue, c'est Elle, les élèves de Jean-Jacques Henner, c'est une expo au Musée national Jean-Jacques Henner, 43 avenue de Villiers, dans le 17e. Et en fait, Jean-Jacques Henner avait fait un atelier spécifique pour les femmes peintres. Et ça expose à la fois des portraits que lui a fait de ses élèves, mais surtout les portraits que les élèves ont faits.
D'accord.
Et donc c'est intéressant parce que on se rend compte qu'elles ont été nombreuses et qu'elles avaient elles ont copié le maître, c'est normal quand on apprend, mais qu'elles ont aussi développé leur propre art.
Alors, il y a 8 publications des éditions du Monde Libertaire qui sont à vendre sur le prix de 10 euros chacun.
Oui, on va peut-être pas les citer
toutes. On les cite pas, mais vous pouvez les voir.
Mais on les trouve à la librairie Publico. On va juste passer le temps des cerises et puis on va annoncer ce qui se passe à Publico.
Ça roule.
Voilà.
voilà, les 8 publications, on les retrouve à Publico. L'important, c'est que c'est les éditions du Monde Libertaire et que ce n'est que à 10 € chacun. La librairie Publico, c'est 145 rue Amelot, métro République, Oberkamp ou Fille du Calvaire. Et c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 19h30, du mardi au dimanche donc, et le samedi à partir de 10h.
Du 2 au 30 mars, il y a une exposition « Histoire de grévistes » d'Amande Hart dans le cadre du Mars féministe.
Le mercredi 19 mars, c'était aujourd'hui à 20h, il y avait un ciné-commune, projection débat en grève, en présence de Christophe Cordier, un des réalisateurs.
Le vendredi 21 mars, à 19h, il y a une rencontre débat sur le thème « En finir avec les idées fausses sur la pauvreté ». Maltraitance institutionnelle. Et c'est Isabelle Mautreau, des éditions du Quart Monde, qui a fait cette rencontre-débat à l'initiative du groupe Louise Michel de l'AFA.
Le samedi 22 mars, ça sera la dernière date du Mars féministe de cette année, à 16h avec le Cœur des Sardinières, rencontre avec Léa Twitou, qui est la scénariste de cet album BD.
Toujours dans le cadre du Mars féministe, il y a le dimanche 23 mars, à 16h, Thomasy en concert, accompagné par Arnaud Delpoux.
Il n'est pas dans le cadre du Mars féministe, mais ce n'est pas grave. Mercredi 26 mars, à 19h, il y aura une rencontre débat. Alors là, il faut le faire. Jean Mélier, curé, athée et anarchiste pour le 21e siècle de Philippe Diaz. Et la prochaine émission aura lieu le mercredi 26 mars. On aura un opus poétique, Nos deuils attentifs, de Laurence Nobecourt, édition La Rumeur Libre. Et puis Hélène Merlin, c'est une interview de cette réalisatrice de Cassandre. Donc c'est un film avec Billy Blin, Zabou Breitman, Éric Ruff en particulier. Et c'est une histoire d'inceste. Mais bien sûr que c'est une façon aussi de critiquer le patriarcat. Et c'est un film qui sortira le 2 avril. Donc, on a eu l'interview juste avant d'Hélène Merlin. Et bon, on vous souhaite une bonne soirée et féministe.
Tant qu'il le faudra.
On termine avec Estelle, l'hymne des femmes.
Nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, nous sommes privés de mémoire, debout, femmes en rage, et détruisons nos cages, debout, debout.
tab. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais lorsque je sors à son bras, je suis fier du résultat. Je suis snob, je suis snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chaussures d'organdi, chemise de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Ah, je me rappelle plus les paroles.
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fortiche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a répliqué en murmurant
sa cloche. Je sais pas où il est passé.
Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur?
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec.
Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance.
Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis.
C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent dans la petite pièce du bas. Oui, oh, 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 oh.
Arthur, où t'as mis le corps?
C'est crié les inspecteurs.
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur, réfléchis, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis.
Alors, y a plus de preuves, hein? Hein, y a plus de preuves.
On a écopé 10 ans. C'est plus que suffisant pour apprendre la volonté. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cogne plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais à nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui?
Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait.
Arthur, il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Ah mince alors Arthur, oui.
Allons mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur, hein?
Aucun nous ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à dire qu'il se perde. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, ça tourne les enfants, ça tourne.
Arthur,
es-tu là?
Oui, le corps.
Arthur, où t'as mis ton corps?
Ben, j'ai plus de corps, le corps.
Arthur, as-tu du cœur?
Bolotte, les gars, rebolotte et 19 d'air.
Oh. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur.
Souvenez-vous, dans Prague, en crise, un pianiste mauvais, mauvais,
massacrèrent tant de cerises. Et d'or, il pleuvait, pleuvait, des patrouilles et des commandes-cœurs, des tanks et des chevaux de frise parcouraient la ville à leur cœur. Elle refusait d'être soumise. Votre corsage m'émouvait et nous nous disions des bêtises. Un pianiste mauvais, mauvais massacrait le temps des cerises. Dans Athènes, quand la dictature s'achevait en déconfiture, un soir d'été, un bouzouki joua pour nous des sirtakis. Les half-track et les camions verts faisaient nonchalamment des rondes. Mais vous, vous buviez dans mon verre et j'aimais vos hanches un peu rondes. Votre parfum me retournait, je vous sentais très éprise. Je vous disais combien j'aimais les choses que vous m'aviez promises. Un an plus tard, à Santiago du Chili, vous étiez en forme. Les musiciens du flamingo bougeaient avec un entrain morne. C'était une soirée très belle, comme